Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Noël Mamère, ancien candidat à l'élection présidentielle, ancien maire de Bègles et auteur avec Patrick Farbiaz du livre « Le cas Zemmour, comment en est-on arrivé là ?» aux éditions Les Petits Matins. Bonsoir.
Bonsoir.
Noël Mamère, il y a 7 ans déjà, vous aviez publié un premier essai qui dénonçait le discours d'Éric Zemmour. À l'époque, il distillait son idéologie à la fois dans ses livres et à la télévision. Dans ce nouvel ouvrage, vous estimez que la candidature d'Éric Zemmour n'aurait pas pu avoir lieu si le terrain idéologique n'avait pas été préparé. Et vous le dites, il y a un contexte qui explique ce phénomène. L'extrême droite et les régimes autoritaires gagnent du terrain dans une grande partie du monde et notre rapport à la démocratie est bouleversé par le numérique.
Je ne sais pas si c'est le numérique qui bouleverse notre rapport à la démocratie. Ce que je sais en tout cas, et vous venez de l'expliquer dans votre exposé introductif, cette hégémonie culturelle de la droite et de l'extrême droite, on voit qu'elle se répand un peu partout, des États-Unis à une grande partie de l'Est de l'Europe et au Brésil, et elle a commencé il y a déjà longtemps cette conquête. Pour ce qui concerne la France, et c'est ce que nous détaillons dans notre livre de 2022, comme nous l'avions fait en 2014 à l'occasion de la sortie du suicide français, alors en France, il y a tout un travail intellectuel qui a été entamé par les penseurs de l'extrême droite, je pense à Alain de Benoist et à la création du Grèce en 1968, puis ensuite le Club de l'Horloge. Et si l'on ajoute à ça la manière dont la droite républicaine s'est comportée en braconnier sur les terres de l'extrême droite, y compris en reprenant ses propres termes, et que l'on constate les abandons et les reniements de la gauche depuis les années 80 sur un certain nombre de ses valeurs qui lui attiraient les classes populaires, si l'on ajoute encore dans cette casserole, si je puis dire, dans cette marmite nauséabonde, le rôle qu'ont pu jouer les médias, en particulier, et pas simplement d'ailleurs, les médias d'information en continu, mais il ne faut jamais oublier que Éric Zemmour s'est servi du service public, je pense à France 2, comme d'une tribune pendant 5 ans avec l'émission On n'est pas couché. Et quand vous touillez tout ça dans la même marmite, bien ça donne en effet une extrême droite qui est, je ne sais pas si elle est en position de conquérir le pouvoir en France, mais qui malheureusement surplombe l'ensemble des débats politiques. Et vous avez vu comment, à l'occasion de la primaire de la droite, cette droite s'est laissée complètement envahir par la question identitaire, qui revient encore une fois avec l'épisode du drapeau européen sous l'arc de triomphe, et qui n'est plus capable d'assumer les fonctions qui sont les siennes dans une démocratie, à savoir un équilibre, ou en tout cas un débat contradictoire sur des valeurs républicaines entre la droite et la gauche.
Vous dites, Noël Mamère, qu'il faut déconstruire les discours fallacieux et les détournements de l'histoire d'Éric Zemmour. Vous êtes journaliste. Quel regard portez-vous sur la manière dont Éric Zemmour a été interviewé depuis le début de sa campagne en août dernier? Et finalement, pourquoi les médias ont-ils invité aussi souvent Éric Zemmour à s'exprimer?
Alors, je ne vais pas accabler les journalistes parce qu'en effet, c'est mon seul métier, mais la vie politique que j'ai menée pendant plus de 25 ans n'était qu'une fonction comme maire et comme député à l'Assemblée nationale. Mais en effet, les médias ont quand même joué un rôle dans la prospérité d'Éric Zemmour, ne serait-ce que pour construire sa notoriété. Je ne dis pas qu'ils ont construit sa légitimité, mais en tout cas sa notoriété qui a beaucoup compté pour percer dans l'opinion publique française. Et en effet, on peut considérer que ces médias, lorsqu'ils avaient en face d'eux Éric Zemmour, je ne parle pas de complaisance, mais disons, ont manqué singulièrement d'exigence. Mais il faut quand même reconnaître que partout où est passé Éric Zemmour, il n'avait pas du tout de contradicteur. Il n'avait pas de contradicteur réel. On n'est pas couché pendant 5 ans. Il avait une chronique sur RTL, le seul. En tout cas, RTL a s'être battu contre lui, c'était Jean-Michel Apathy, qui a d'ailleurs traîné dans la boue dans le dernier livre d'Éric Zemmour, et il n'avait pas de contradicteur dans ses chroniques du Figaro. Il a je sais plus combien de couvertures dans des journaux comme Valeurs Actuelles. Donc les journalistes ne peuvent pas se laver les mains tel Ponce Pilate en nous disant on n'y est pour rien. Et puis quand vous ajoutez à ça, comme vous l'avez dit au début de cet entretien, le numérique, c'est-à-dire les réseaux sociaux, une sorte de course à l'échalote entre les médias et les réseaux sociaux, à celui qui provoquera le plus de bruit médiatique, le plus de buzz, comme on dit aujourd'hui, eh bien la culture du clash s'est substituée à celle du débat et ça donne ses...
Noël Mamère, Éric Zemmour parle du grand remplacement, il affirme que les musulmans colonisent la France, il évoque l'identité française menacée. Vous qui avez lu les livres d'Éric Zemmour, vous avez écouté ses interviews, à quoi ressemblerait la France s'il était élu président de la République? On entend souvent ses théories, mais concrètement, à quoi ressemblerait sa politique?
La France de Éric Zemmour ressemblerait à un cimetière, et un cimetière dans lequel tout le monde ne pourrait pas reposer. Ne pourraient y reposer que les blancs, surtout pas les femmes, surtout pas les homosexuels, surtout pas les musulmans, surtout pas les arabes. Une France impossible. C'est impossible de vivre dans une France aussi étriquée, aussi mortifère. Donc ce que propose Éric Zemmour, ce n'est rien d'autre que de jeter au bon peuple de France qui est aujourd'hui très désorienté par rapport à l'éco-anxiété que suggère le réchauffement climatique, qui est très inquiète de son avenir et de l'avenir de ses enfants, qui vit pour une partie des Français qui est importante de profondes inégalités, un sentiment de déclassement, une peur de la mondialisation dont les libéraux nous disaient qu'elle était heureuse, et on voit bien qu'elle ne l'est pas. Éric Zemmour profite de tout ça pour offrir à des Français qui sont inquiets un ennemi de l'intérieur, et cet ennemi de l'intérieur, sous Drumont et Maurras, c'était les Juifs, aujourd'hui ce sont les musulmans. C'est une manière d'ailleurs, comment dire, d'habiller sa haine des Arabes, on le maquille sous les musulmans. Mais faut savoir que quand on en est arrivé, quand on est dans cette spirale, ça commence par les musulmans, les femmes, les homosexuels, et puis ça se termine par les Juifs.
Et Noël Mamère, vous écrivez ceci dans votre livre, « L'histoire nous a montré à quoi peut conduire ce délire de pureté, au génocide et à la purification ethnique. L'ascension d'Éric Zemmour doit être perçue à la lumière de l'histoire et de ses tragédies ?»
Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des médias et de l'opinion ne contextualise pas la montée de Zemmour. C'est-à-dire, on fait comme si c'était une génération spontanée, comme s'il était arrivé là, selon les circonstances. Non, tous les événements historiques s'expliquent, et ils s'expliquent par l'histoire et par ce qui nous a précédé. Et c'est ce que nous avons fait, d'ailleurs, dans notre livre avec Patrick Farbias. Nous avons regardé tout ce qui s'est passé depuis les premières révolutions conservatrices, je pense en particulier à celle de ces intellectuels sous la République de Weimar, qui posait les bases, d'une certaine manière, de ce qui est devenu le nazisme. Mais ça a été aussi la révolution conservatrice de Reagan, puis celle de Thatcher, puis celle de Trump. Et donc, il faut bien expliquer que Zemmour, il n'est en fait que l'incarnation de ce mouvement qui est né il y a déjà pas mal de temps. Alors il arrive d'une certaine manière avec habileté à synthétiser ces courants de pensée qui ont donné des sociétés invivables et des sociétés qui sont à condamner, bien évidemment, qui ont donné le pire du pire de notre histoire. Et il faut bien considérer que nous n'avons pas affaire à une sorte de clown médiatique qui serait sorti de son écran, de sa télé, pour venir dans la société. Non, il n'est pas tout seul. Il est suivi par une certaine partie de la bourgeoisie et du capitalisme, je pense en particulier à Bolloré, dont il sert aussi les intérêts. Donc, pour regarder l'histoire, et quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que les dictateurs qui sont arrivés au pouvoir pour mener des politiques infâmes, ils étaient aussi suivis par une partie de la bourgeoisie et soutenus par elle et financés par elle.
Et vous revenez notamment sur la pétition des généraux à la retraite publiée sur le site de Valeurs Actuelles, appelant au retour de l'honneur. Vous rappelez aussi, Noël Mamère, que des groupes d'extrême droite existent au sein de l'armée et de la police. Est-ce que la République aujourd'hui est en danger?
La République, elle est toujours en danger. parce qu'il y a toujours dans les forces antagonistes qui font vivre un pays des forces obscures. Et ces forces obscures deviennent de plus en plus fortes, si je puis dire, lorsque les tensions, lorsque les conflits dans la société ne sont pas gérés de manière démocratique et politique. Vous savez, nous allons célébrer les 2 ans, enfin célébrer, nous revivrons d'une certaine manière l'invasion du Capitole par les troupes de Trump. Dans ces troupes-là, on le sait aujourd'hui, il y avait des suprémacistes blancs, qui sont de véritables fascistes armés, qui étaient là au Capitole. Ce qui s'est passé, il faut se dire que ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est peut-être loin géographiquement, mais politiquement, c'est très proche. Et il y a, comme on l'a pu le voir à Villepinte, lors du meeting de Zemmour, bien, on sait qu'autour de lui, il y a des nervis qui sont prêts au coup de force, et je pense qu'il faut que l'on soit très, très vigilant là-dessus, évidemment, mais cette émergence de ces groupes fachos qui ne se cachent plus, c'est la preuve de la fragilité, de la faiblesse de notre démocratie aujourd'hui et donc d'un affaiblissement politique dont une grande partie des partis politiques traditionnels, sur lesquels les partis politiques traditionnels portent une autre responsabilité.
Justement, Noël Mamère, quand un candidat à l'élection présidentielle annonce qu'il veut par exemple expulser les chômeurs étrangers, la mesure paraît tellement inouïe qu'on entend peu de réactions. Comment les progressistes, les républicains, devraient-ils réagir face au populisme et à la démagogie ?
Il faut réagir non pas en défensive, en disant non, ce n'est pas vrai, il faut réagir en proposant, pour parler en lieu commun, un autre récit, d'autres perspectives, et répondre non pas à ce qui est une sorte de mythe qui serait la crise identitaire, l'immigration, l'insécurité. La réalité que vivent les Français, et qu'ils placent en priorité dans leurs préoccupations, ce sont les questions liées à la santé, à l'éducation, au pouvoir d'achat et aux questions sociales, aux inégalités. C'est sur ces sujets-là qu'il faut répondre. Il faut que ces sujets arrivent à s'engouffrer dans la brèche de l'identitarisme qui est devenu aujourd'hui l'alpha et l'oméga du débat politique. Et ça, c'est le rôle de la gauche et de l'écologie que de réintroduire ces débats qui sont ceux auxquels on doit répondre vis-à-vis de la demande des Français.
Vous écrivez, Noël Mamère, qu'il faut défendre pied à pied une société ouverte, plurielle et multiculturelle. Est-ce que les responsables politiques républicains, qu'ils soient de droite ou de gauche, disent assez que le métissage et la diversité ne sont pas un problème ?
Non, ils ne le disent pas assez, ils l'ont dit, comme par exemple Madame Pécresse, qui dans un livre en 2012 vantait les mérites du métissage. Et quand je regarde la gauche, celle qui était incarnée notamment par Manuel Valls, qui stigmatisait tout ce qui était finalement multiculturel, à commencer par les Français d'origine musulmane, je me dis que la gauche et la droite réunies sont en train de participer avec une certaine forme de complaisance à cette idée selon laquelle une société multiculturelle serait dangereuse pour l'universalisme. Moi, je réponds que non, je réponds qu'au contraire, ça le nourrit.
Et vous dites qu'Éric Zemmour a raison, malgré lui, quand il dit que la Seine-Saint-Denis est l'avenir de la France.
Oui, c'est vrai, parce que c'est un département très intéressant. Vous voyez que c'est un département qui est pétri de contradictions, avec d'un côté des grandes entreprises très modernes qui sont installées, et de l'autre des formes de ghettos urbains qui se sont construits au fil des ans à cause de nos politiques urbaines et de ségrégation sociale. Mais en même temps, c'est un département dans lequel il y a de la création, enfin il y a beaucoup d'artistes, je me fonce un clou que l'on connaît déjà, il y a beaucoup d'artistes très connus qui sont issus de la Seine-Saint-Denis. C'est un département qui bouge, c'est un département qui crée, c'est un département qui imagine, c'est un département qui vit comme nous l'aimons.
Alors vous soulignez, Noël Mamère, que quelque chose s'est brisé dans la relation des citoyens à leurs dirigeants, dans leur rapport à la politique, et d'une certaine manière, vous laissez entendre que le président Macron et les autres dirigeants politiques ont une part de responsabilité aussi dans le phénomène Zemmour.
Oui, bien sûr, nous avons analysé avec mon co-auteur Patrick Farbias le rôle joué par Emmanuel Macron. Nous ne disons pas qu'il est la principale cause de la montée en puissance de Zemmour, mais disons qu'il a contribué à la facilité, parce que lui aussi est allé, pour des raisons circonstancielles et électorales, braconner sur les terres de la droite et de l'extrême droite en réhabilitant au moment opportun des thèmes comme ceux de l'immigration, y compris même d'ailleurs de l'identité. Et quand on regarde avec effarement, quand on écoute avec attention, on est effaré de ses propos à l'occasion des vœux du Nouvel An, où il dit que la France est d'abord un pays de devoir avant un pays de droit. Mais quand on regarde historiquement les débats qui ont eu lieu au moment de la création de la première constitution, après en 1793, les débats qui ont eu lieu sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ben c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et les devoirs, ils sont induits par les droits que les sociétés se fixent.
Pourquoi, selon vous, Éric Zemmour mobilise-t-il le syndrome colonial, pour reprendre l'expression que vous utilisez dans le livre ?
Ah, parce que on voit bien que la question coloniale est une question qui est encore très prégnante dans les débats français, que l'on n'a pas encore fait le retour absolument nécessaire sur notre mémoire et sur notre histoire, comme ont su le faire d'autres pays. Et quand on est accusé de wokisme, ce qui ne veut rien dire, parce que on considère que les études postcoloniales ont contribué à nous faire mieux comprendre le sens de notre histoire et la réalité de notre société, on tombe de l'armoire en voyant que, y compris des gens de la droite classique et du centre, nous reprochent d'avoir réintroduit, enfin d'avoir examiné sous un autre angle, avec un autre projecteur, la question coloniale qui demeure malgré tout. On voit bien que on peut nous répéter à l'envi la République laïque, l'universalisme. Il n'empêche que il y a toujours en France des discriminations qui sont liées à la race, à la religion, et qu'il y a des portions de Français venant de nos anciennes colonies qui sont toujours discriminées. Donc ça, il faut le reconnaître et il faut combattre contre cela en le liant évidemment à chaque fois aux questions sociales.
Dernière question, au vu des sondages, le ticket d'entrée pour être présent au second tour de l'élection présidentielle est de 15 ou 16%. Dans le contexte actuel, pensez-vous qu'une victoire de Zemmour est possible ?
Je ne pense pas qu'une victoire de Zemmour soit possible, mais ce que je constate chaque jour un petit peu plus, c'est que Zemmour est devenu l'idiot utile de Valérie Pécresse. Et comme le ticket d'entrée est effectivement assez bas, Valérie Pécresse risque de se retrouver au deuxième tour face à Emmanuel Macron. Et là, il y aura un grand danger pour le président de la République sortant, parce qu'elle aura une grande partie de la droite et de l'extrême droite derrière elle.
Merci Noël Mamère. Je rappelle que vous publiez avec Patrick Farbias le livre « Le cas Zemmour, comment en est-on arrivé là ?» et c'est publié aux éditions Les Petits Matins. Bonsoir.
Bonsoir et merci.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.